Bonsoir à toutes et à tous. L'Amérique se fracture un peu plus à l'approche de l'élection présidentielle. On vient d'apprendre en effet le décès de la doyenne de la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, qui est une icône de la gauche américaine. Et c'est un coup de tonnerre dans cette tumultueuse campagne électorale, car Donald Trump et l'opposition démocrate commencent déjà à se battre pour remplacer cette voix essentielle au cœur de la démocratie américaine. C'est donc une Amérique sous tension maximale qui s'apprête à voter dans 45 jours avec le Covid, les émeutes raciales et un Donald Trump qui a d'ores et déjà annoncé qu'il pourrait contester le résultat du vote s'il ne lui était pas favorable. C'est dans l'air est intitulé ce soir Trump-Biden, cette mort qui pourrait tout changer. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Corentin Célin. Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis, professeur agrégé d'histoire en classe préparatoire et chroniqueur pour le site lesjours.fr. Marie-Cécile Nave, vous êtes directrice de recherche à l'IRIS, auteur de Trump, la revanche de l'homme blanc. C'est aux éditions textuelles et je précise que votre nouveau livre, à paraître en octobre chez Kalman Levy, est intitulé « La démocratie féministe ». Sylvie Kaufmann, vous êtes éditorialiste internationale au Monde. Vous avez signé cette chronique. Personne ne sait si le 4 novembre, les États-Unis auront un président élu, ni même le 4 décembre. On peut aussi vous retrouver chaque mois dans le New York Times. Et enfin, Laurie Kenton, vous êtes maître de conférence à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, spécialiste de l'histoire et de la politique américaine. Et à paraître début octobre, votre nouveau livre intitulé « Le rêve américain à l'épreuve de Donald Trump », c'est aux éditions Vendémiaire. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. On commence avec vous, Marie-Cécile Nave. On a appris donc hier soir le décès de Ruth Bader Ginsburg. On va être honnête, elle est peu connue en France et pourtant on dit qu'elle fait la une là, en ce moment du Washington Post, du New York Times. On ne parle que de ça aux États-Unis. Qui est cette femme et en quoi est-elle un personnage clé qui pourrait changer l'issue du vote de la présidentielle américaine ?
Elle est très connue outre-Atlantique dans les milieux féministes parce que c'est une icône des mouvements féministes. J'ai envie de dire, c'est un peu l'équivalent de notre Simone Veil à nous.
Ah oui, d'accord.
En termes de symbole,
sauf
mais aussi en termes de parcours.
Aux affaires, toujours au pouvoir. Enfin, elle l'était jusqu'à sa mort hier soir.
Elle était jusqu'à sa mort hier soir. Évidemment, il faut comparer, mais enfin, c'est une juriste aussi. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté au sein de la Cour suprême, mais aussi avant, dans les années 70, quand elle était avocate et juge, où elle a défendu un certain nombre de cas devant la Cour suprême. Elle en a gagné beaucoup. C'est quelqu'un qui a largement contribué à faire de la discrimination sexuelle une question constitutionnelle aux États-Unis, alors qu'il n'existe pas d'article dans la Constitution américaine pour l'instant qui garantit l'égalité constitutionnelle entre les femmes et les hommes, sur l'égalité salariale, sur la lutte contre les discriminations dans l'entreprise, sur l'admission dans les écoles militaires, etc. etc. C'est un personnage très, très important. Et son décès à 45 jours de l'élection présidentielle est une nouvelle majeure pour deux raisons. Première raison, on en reparlera sans doute tout à l'heure, mais peut-être que l'élection ou la décision de qui va vraiment être élu va se jouer devant les tribunaux aux États-Unis. Et in fine, c'est peut-être la Cour suprême qui décidera, comme en 2000 avec Bush et Al Gore, et donc avec une majorité de 5 contre 3.
L'élection avait été incertaine, le résultat, et donc c'est la Cour suprême qui avait dit voilà. C'est George Bush qui a gagné, et c'est pas Al Gore qui a gagné.
Arrête de compter en Floride, et d'ailleurs à cette époque, Ginsburg avait dit non, il faut qu'on continue à recompter, etc. Donc si on a une Cour suprême de 5 contre 3 et peut-être de 6 contre 3.
Parce qu'il y a, il y a 9 juges à la Cour suprême.
Il y a 9 juges qui sont nommés à vie. Il faut rappeler que
la Cour suprême... Il y en a plus que 8 donc, depuis le décès hier soir de Ruth Bader Ginsburg.
Il faut rappeler les pouvoirs immenses de la Cour suprême aux États-Unis. C'est un peu l'équivalent à la fois d'une Cour de cassation, de la Cour européenne des droits de l'homme, d'un Conseil constitutionnel et d'un Conseil d'État réuni. Donc imaginez les pouvoirs de ces juges qui sont nommés à vie. Et puis la deuxième raison, c'est que peut-être que le pouvoir en place, Donald Trump, mais aussi le Sénat qui est aujourd'hui à majorité républicaine avec Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine, va essayer de nommer un nouveau juge avant l'élection ou peut-être avant l'entrée en liste du prochain président en janvier.
Corentin Célin, en fait, ce qu'on a du mal à comprendre chez nous, c'est que cette Cour suprême américaine, elle a énormément d'influence sur le port d'armes, l'avortement, enfin toutes les questions sociétales, et que donc sa couleur politique, il y a 9 juges, si j'ai bien compris, sa couleur politique est essentielle sur l'ADN de la démocratie américaine.
Oui, tout à fait. Il faut déjà insister sur le fait qu'elle est devenue encore plus centrale à cause de la paralysie progressive du processus législatif. C'est-à-dire que comme le Congrès est de plus en plus paralysé dans son action législative par l'enracinement partisan, par la radicalité partisane, la Cour suprême de plus en plus doit dire ce qu'est la loi et ce qui est possible ou pas au regard de la Constitution.
Sur les questions de mariage gay, de, je sais pas, d'avortement, de port de l'arme, vous avez l'air de dire que c'est plus le législatif qui décide, c'est la Cour suprême en gros.
Bon, on peut prendre un exemple puisqu'on évoquait Simone Veil. Aux États-Unis, il n'y a pas de loi fédérale légalisant l'avortement, légalisant l'interruption volontaire de grossesse. C'est la Cour suprême qui, à partir de 1973, a dit les États fédérés, hein, les 50 États, ne peuvent pas interdire à une femme l'IVG. Et donc, depuis cette époque, les conservateurs sont vent debout contre cette Cour suprême qui a légalisé l'avortement, qui a ensuite, plus près de nous, a légalisé le mariage homosexuel. Et donc, pour les conservateurs et pour Trump, la reconquête de cette Cour suprême est fondamentale.
Il faut... C'est-à-dire mettre des juges bien conservateurs à l'image de... Enfin de
absolument.
Pour séduire un électorat
absolument.
Conservateur.
Il faut rappeler quelque chose. En 2016, quand Donald Trump emporte la présidence, 26% de ses électeurs disent « Mon premier motif de vote, c'est la composition de la Cour suprême. Ce sont les juges de la Cour suprême. » Plus d'un quart de ses électeurs. C'est énorme.
Donc, il a mis des juges anti-avortement pour le port de l'arme, etc. Enfin, ça...
Oui, alors justement, et ça nous ramène à Ruth Bader Ginsburg, en fait, en 2016, Barack Obama, dans la dernière année de sa présidence, a eu l'opportunité, lors du décès d'un des 9 juges conservateurs, le juge Scalia...
Parce qu'ils sont nommés à vie, hein. Donc il faut attendre le décès pour les remplacer.
Voilà, le décès où
il peut démissionner
pour raison de santé. Mais en 2016, donc l'année de l'élection de Trump, le juge Scalia conservateur meurt. Barack Obama, en mars 2016, tout à fait logiquement, désigne un nouveau juge plus libéral, le juge Garland. Et à ce moment-là, le Sénat républicain, mené par Mitch McConnell, a refusé,
qui est un républicain, a refusé
d'envisager la candidature de Garland en disant « Ah non, non, on ne nomme pas de juge à la Cour suprême une année électorale. » Et évidemment, cette année, alors que Ruth Bader Ginsburg vient de mourir, le même McConnell, dès hier soir, a dit « Ah ben non, là on peut ». On peut étudier la candidature du nommé de Trump.
Or, théoriquement, en 2016, on a dit non, on fait ça calmement après l'élection américaine.
Exactement. D'accord. Et on a donc privé Obama d'une nomination. Et c'est donc Trump qui, une fois élu, a pu faire remplacer le juge Scalia conservateur par un autre conservateur, Gorsuch. Et le Sénat républicain, qui avait privé Obama d'une nomination en année présidentielle, aujourd'hui s'apprête à offrir à Trump, à quelques semaines de l'élection, une nomination.
C'est vrai que Sylvie Kaufmann, Donald Trump, elle est morte hier soir, cette juge, vient de déclarer aujourd'hui qu'il s'apprêtait à nommer sans délai, je le cite, sans délai un nouveau juge à la Cour suprême. Est-ce à dire que, contrairement à 2016, il bouscule la grammaire démocratique américaine et que, de ce point de vue, c'est une bataille entre les institutions et Donald Trump qui veut faire un coup de force, on pourrait parler de ça même à la Cour suprême.
Un coup de force, il va faire le forcing, il va tenter le forcing, c'est-à-dire comme le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, l'a annoncé, ils vont essayer de nommer tout de suite un juge républicain.
À la place de Ruth Bader Ginsburg, qui était de gauche,
absolument, qui avait été nommée par Bill Clinton, donc d'accord. Qui était démocrate et une icône de la gauche progressiste américaine. Lui a déjà nommé 2 juges conservateurs.
Quelle couleur elle a d'ailleurs cette Cour suprême aujourd'hui?
Nous n'avons donc plus que 8 juges. Hein. Sur ces 8 juges, 4 sont plutôt à gauche, disons démocrates, et 4 sont plutôt à droite, républicains. Ce qui veut dire en effet que si le 3 novembre, à l'issue de l'élection présidentielle, on a un vote qui est contesté, ce qui est quand même assez probable, si tout ça se termine devant la Cour suprême, comme ça a été le cas en 2000, au bout d'un mois, en l'an 2000, c'est la Cour suprême qui a tranché. Là,
quand Al Gore avait contesté le résultat de l'élection
de George W. Bush, voilà, Bush, parce qu'ils avaient quelques centaines de voix de différence en Floride.
I demand a recount.
En Floride, voilà.
Je demande un recompte.
Voilà. Et donc là, ça risque d'être
pire.
Puissance 10. Et là, on aura très probablement 8 juges, 4 contre 4. Donc voilà, on peut imaginer ce scénario, on peut imaginer plein de scénarios. Donc là, il va faire le forcing, il va essayer, lui et Mitch McConnell, Trump et Mitch McConnell vont essayer de nommer. Mais il reste 45 jours.
Où cette élection risque d'être contestée et qu'on a besoin justement d'institutions fortes comme la Cour suprême pour garantir que l'élection présidentielle se déroule normalement, et bien cette Cour suprême, elle se retrouve fragilisée. Par le décès et le remplacement contesté que s'apprête à faire Donald Trump.
Alors, il va essayer de faire le forcing, je reviens à votre question. Il a 45 jours avant le 3 novembre. Matériellement, c'est pratiquement impossible. Je crois que même les conseillers de la Maison-Blanche sont d'accord. C'est très compliqué de nommer un juge et de le faire confirmer par le Sénat, parce qu'il faut le faire confirmer par le Sénat. La procédure de confirmation des juges à la Cour suprême, c'est un phénomène politique aux États-Unis qui dure des semaines, quelquefois même plus longtemps. Tout le monde est là devant ça. C'est quelque chose de très important. Donc, est-ce qu'il peut arriver à le faire entre le 3 novembre et l'investiture de celui qui est élu, du président élu, qui est le 20 janvier ? Matériellement, c'est possible, mais ça va être politiquement extrêmement compliqué.
Laurie Kenton, pardon, mais la démocratie américaine, qu'on décrivait comme la plus grande démocratie du monde, qui avait l'air d'être un roc, mais même un roc réconfortant, c'est-à-dire, tiens, voilà une démocratie inattaquable. On a l'impression qu'au terme de ce mandat de Donald Trump, on voit toutes ses faiblesses et on a l'impression qu'elle est friable.
On voyait ça déjà bien avant. Hein. Trump est un symptôme de ce qui préexistait. La polarisation, le blocage du Congrès, ça existait déjà avant. Le Tea Party, c'était sous Obama. C'était une réaction à l'élection d'Obama. Des gens comme Mitch McConnell étaient déjà en place sous Obama. Et donc, on avait déjà une forte paralysie. La présidence
d'Obama... On vote pas pour le bien du pays, on vote pour son pays, pour sa couleur politique, c'est ça ?
De plus en plus. De toute façon, il y a une polarisation partisane qui fait qu'on ne se parle plus. Et c'est aussi un des grands enjeux de cette élection, c'est d'arriver peut-être à transcender cette haine entre les deux camps qui font que le compromis, par exemple, pour un juge à la Cour suprême n'existe pas. Et donc, comme pour l'impeachment, on va voter selon sa ligne partisane. C'est pour ça que pour l'instant, avec un Sénat à 53 pour les Républicains et 47 pour les Démocrates, en gros, théoriquement, et j'apporte la nuance juste après, théoriquement, si Trump, demain, après-demain, disons, nomme un juge et que Mitch McConnell dit...
Le chef des Républicains au Sénat.
Parfait.
Qui a la majorité.
Exactement. Dit, eh ben, on va s'y atteler tout de suite. Alors, En moyenne, c'est 67-70 jours pour nommer un juge à la Cour suprême depuis, en gros, les années 70. La dernière fois que ça a été moins de 45 jours, c'était Ginsburg en 93, 42 jours. Donc techniquement, c'est possible. C'est très improbable. Il n'est pas non plus impossible qu'on ait la nomination après-demain et que la confirmation par le Sénat ait lieu après l'élection. Hein. Le Sénat continue à siéger jusqu'à début janvier, même si les sénateurs en question ont perdu leur élection. Donc il ne faut pas oublier qu'on a ce moment entre novembre et janvier où les choses sont encore possibles.
Donc à la crise sanitaire, à la crise économique, est en train de s'ajouter une crise un peu institutionnelle comme théâtre de cette élection américaine. Alors, nous sommes donc à 45 jours de l'élection. Joe Biden fait la course en tête dans les sondages au niveau national, mais Donald Trump remonte en Floride, l'un des États clés de cette folle campagne. Une campagne marquée, bien sûr, par le Covid, les violences policières, mais aussi, et c'est donc l'information de cette nuit, hein, par la disparition de la juge Ginsburg, membre démocrate de la très puissante et très politique Cour suprême américaine. Vous voyez ce sujet de Julien Launay et Benoît Thébault.
All right, we have a breaking news right now.
Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg has died.
Ruth Bader Ginsburg, doyenne de la Cour suprême, temple du droit et institution clé de la démocratie américaine. Emportée par la maladie à l'âge de 87 ans, la magistrate laisse donc vacant un poste doté de grands pouvoirs. La désignation rapide ou non de son remplaçant est désormais un enjeu de la campagne présidentielle. Depuis un tarmac du Minnesota, Donald Trump a réagi à sa mort en donnant l'impression qu'il ne savait pas.
She just died.
Elle est morte.
Wow. I didn't know that.
Je ne le savais pas. C'est vous qui me l'apprenez. Elle a eu une vie extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'était une femme incroyable. Que l'on soit d'accord ou pas avec elle, c'était une femme incroyable qui a eu une vie incroyable.
Depuis l'annonce de son décès, les hommages se multiplient, en particulier dans le camp des démocrates. Progressiste, Ruth Bader Ginsburg siégeait dans une juridiction majoritairement conservatrice. Elle avait eu à cœur de défendre la cause des femmes, des minorités ou encore de l'environnement.
Nous avons appris la mort de Ruth Bader Ginsburg, qui n'est pas seulement une immense juriste, mais une personnalité bien aimée.
Et à l'approche de l'élection début novembre, une autre actualité ne cesse d'agiter les débats, le coronavirus. Les États-Unis ont passé le cap des 200 000 morts, mais Donald Trump tente de rassurer avec une promesse.
Nous aurons fabriqué au moins 100 millions de doses de vaccins avant la fin de l'année et probablement bien plus que cela encore. Des centaines de millions de doses seront disponibles à l'avenir chaque mois, de quoi avoir suffisamment de vaccins pour chaque Américain d'ici avril.
L'échéance du printemps prochain, plus lointaine que celle de l'automne, évoquée cette semaine par le locataire de la Maison Blanche. Son directeur de la santé se montrant alors beaucoup plus prudent que lui, d'où une nouvelle polémique. Sur la gestion de la crise sanitaire, Joe Biden passe à l'attaque.
Il ne voulait pas voir ce qu'il se passait, complètement focalisé sur sa réélection. Cela aurait dû être la grande préoccupation quand on voit comment le pays se retrouve fragilisé. Et même son propre directeur de la santé l'a contredit récemment. L'idée qu'il y aura un vaccin et que tout ira bien demain n'est tout simplement pas rationnelle, pas raisonnable.
Ciel d'apocalypse. Parmi les craintes du moment dans le pays, il y a également ces gigantesques incendies à l'ouest. C'est comme si toute l'Île-de-France et une partie de ses départements voisins étaient déjà partis en fumée. Lundi, Donald Trump, venu en Californie, touché par ces feux, a minimisé l'impact du changement climatique.
Si on ignore la science en faisant la politique de l'autruche et en disant que ce n'est qu'une question de gestion des forêts, nous n'arriverons pas à protéger les Californiens.
Vous verrez, ça va se refroidir.
J'aimerais que la science soit d'accord avec vous.
Je ne pense pas que la science sache vraiment.
Dans les sondages, Donald Trump a toujours plusieurs points de retard sur Joe Biden. Il est notamment devancé dans ces États capables de faire basculer le vote. Par exemple la Floride, où l'écart se réduit et où un électorat suscite toute l'attention.
Mes Latinos, j'adore les Latinos. Joe Biden a passé 47 ans de sa vie à se débarrasser de la communauté hispanique, à laisser partir vos emplois vers la Chine, à augmenter vos impôts, à renforcer les réglementations. Je ne sais pas, mais cela ne me semble pas très glorieux.
Son concurrent réplique sans tarder.
Donald Trump a échoué à maintes reprises avec la communauté hispanique, que ce soit dans son acte odieux de séparer les enfants de leur famille à la frontière, ou ses attaques répétées contre ces jeunes entrés illégalement sur le territoire.
Le duel à distance donnera lieu bientôt à une confrontation directe. Premier débat entre les deux hommes, prévu le 29 septembre.
On revient sur la disparition et la mort de Ruth Bader Ginsburg. Sylvie Kaufmann en a bien vu là dans le sujet. Quand Donald Trump l'apprend, lui qui est volontiers clivant, qui est volontiers provocateur, il était tout en hommage. Il a dit que c'était une femme incroyable, qu'elle avait une vie extraordinaire. On voit bien là que c'est un monument en fait de la vie américaine. En fait, elle est dans la vie de chaque Américain parce que, vous le disiez, ils sont nommés à vie, ces juges, donc ils vous accompagnent toute votre vie. On les voit à la télé tout le temps.
C'est une femme qui était vraiment très connue. Elle avait 87 ans. Elle était là depuis 93, donc ça fait 27 ans. Elle a aussi fait l'objet d'un documentaire qui a été récompensé par un Oscar. Elle a fait l'objet d'un film, un biopic, qui a été vu par un très grand public aussi. Le président Macron a fait un communiqué pour saluer sa disparition, la présidente de la Commission européenne aussi. C'est quelqu'un qui a vraiment compté. Et donc, on savait que Trump savait nécessairement que dans l'esprit américain, ça allait provoquer une certaine émotion. Donc, sa première réaction, dont on ne sait pas s'il apprend vraiment la nouvelle comme ça ou pas, puisque ses conseillers lui ont parlé quand il est sorti du meeting. Par ailleurs, on savait qu'elle était en très mauvais état. Ça fait des années qu'elle est traitée pour des cancers. Elle a eu plusieurs cancers. C'est une femme d'un courage incroyable. Elle essayait désespérément de tenir jusqu'à l'élection. Et, la radio...
Pour ne pas que son poste puisse être remplacé sous le mandat de Donald Trump, c'est-à-dire par un juge républicain.
Voilà, et elle a même dit à sa petite fille, qu'il a confiée à la radio publique là, hier soir, mon souhait le plus cher, le plus ardent, c'est de ne pas être remplacée avant que le nouveau président soit en place.
En espérant donc, que ce soit Joe Biden.
Voilà, donc elle essayait vraiment de tenir. Alors donc, Trump, je crois, lui, effectivement, il n'est pas idiot, il est loin de là, il tient compte de cette émotion. Donc sa première réaction est modérée. En même temps, ses collaborateurs, depuis plusieurs jours déjà, préparent. Ils ont déjà donné une liste de noms parmi lesquels ils pourraient choisir le successeur de Ruth Bader Ginsburg. Et après, ils publient aussi un communiqué très modéré, dont on en doute même que c'est lui qui l'a écrit, tellement c'était modéré. Et puis finalement, ils disent ce que vous avez dit au début de l'émission, à savoir, on va y aller, il faut y aller très vite, hein, sans attendre.
Et justement, Corentin Célin, question téléspectateur, elle n'est pas morte depuis 24 heures, cette juge, que déjà il veut la remplacer. Question téléspectateur, va-t-on assister à une guerre politique pour la Cour suprême ?
Oui.
Parce que l'enjeu, c'est de quel côté va pencher cette Cour suprême et va-t-elle devenir conservatrice, voire rétrograde, et on a vu l'importance sur tous les sujets de société qu'elle peut avoir.
Ça devient une guerre politique, et j'allais dire à plusieurs niveaux et plusieurs échéances. Déjà, ça devient le sujet numéro un de la campagne. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que tout à coup, on va parler dans les semaines qui viennent, on va parler quasi uniquement de ça. Il ne faut pas oublier que les États-Unis ont connu à plusieurs reprises, lors de la nomination de juges à la Cour suprême, en 1987 avec le juge Bork, mais surtout plus près de nous, en 2018 avec le juge Kavanaugh, de véritables... des juges conservateurs, dont Bork avait été rejeté, Kavanaugh, nommé par Trump, a finalement été confirmé par le Sénat. Les États-Unis ont vécu à ces occasions de véritables psychodrames nationaux. Ça a été des batailles rangées au Sénat, dans l'opinion. Et on semble parti pour la même chose. Et ce qui est inquiétant sur l'état du pays, c'est que ça s'ajoute à une campagne présidentielle qui était déjà très clivée. Donc on va en parler beaucoup. Ensuite, pour Trump, c'est déjà un argument de campagne. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de ses électeurs, en particulier chez les blancs évangéliques, ont voté pour lui en 2016 pour qu'il leur donne une majorité conservatrice qui supprimera le droit à l'avortement, etc. Là, il a un argument qu'il va marteler. Il va dire que ce soit maintenant, si j'ai la possibilité de le faire avec le Sénat républicain tout de suite, ou après mon élection, si vous me réélisez, donnez-moi 4 ans de plus et vous allez voir, je vais continuer à repeupler la Cour suprême. Sur ce point, il faut insister aussi sur le fait que Donald Trump a repeuplé de manière inédite dans l'histoire toutes les cours d'appel fédérales qui sont l'échelon immédiatement inférieur à la Cour suprême, dans laquelle, la plupart du temps, on prend les nouveaux juges à la Cour suprême. Il a installé 53 juges en cours d'appel fédérale sur 179 au total. C'est quasiment autant qu'Obama en deux mandats. Donc il a mené déjà un véritable travail de repeuplement de la justice fédérale. Et là, il peut dire... Votez pour moi et déjà,
la Cour suprême basculera conservatrice.
Définitivement et pour des décennies. Et pour
lui. Alors ça veut dire par exemple que des décisions sur l'avortement pourraient être radicales aux États-Unis ou...
Pour répondre à votre question, on peut citer le sénateur républicain du Missouri, Josh Hawley, qui il y a 3 semaines a dit « Moi en tant que sénateur, donc si j'ai à confirmer un juge à la Cour suprême, j'exigerai de tout nouveau juge qu'il s'engage à renverser la jurisprudence Roe qui autorise l'avortement. Donc on va vraiment vers une bataille très, très importante.
Alors vous voulez avancer, Marie-Cécile Nave.
Alors, il y a un débat qui commence à émerger chez les juristes américains, disant que si le Sénat bascule aussi du côté démocrate le 3 novembre, parce qu'on vote aussi pour le Sénat, pour la Chambre des représentants.
En même temps qu'on élit le président, on élit le Sénat.
Un tiers du Sénat. Ah, voilà. Un tiers du Sénat est renouvelé tous les 2 ans.
Là, il est républicain, le Sénat.
Il est républicain, il n'y a que 3, il y a 6 sièges d'écart, majorité de 3 sièges. Ça peut aussi avoir un effet, cette vacance de poste, un effet mobilisateur sur une partie de l'électorat démocrate qui hésite encore un peu, qui voit que Biden est un choix de raison, mais qui n'est pas très emballé par Biden, on se dit, il y a quand même cet enjeu-là. Il y a un débat qui commence à émerger.
La Cour suprême derrière. Quoi.
Voilà, il y a un enjeu, il y a un sujet qui commence à émerger chez les juristes américains en disant, peut-être que si le Sénat bascule côté démocrate et si Biden est élu, il peut y avoir un rapport de force avec les républicains, disant, OK, nous, si vous commencez à vouloir passer en force d'ici le 20 janvier, on augmentera le nombre de juges à la Cour suprême à partir de 20 janvier. Et ça, c'est possible. Il y a des subtilités juridiques, mais c'est possible. Donc, c'est une bataille qui s'annonce vraiment difficile, comme vous l'avez dit.
Donc, la Cour suprême qui tangue. Laurie Kenton, il y a autre chose qui est extraordinaire, c'est que la première démocratie du monde, on a l'impression, n'arrive pas à organiser techniquement le vote de ces élections. Pourquoi est-ce que le fait qu'on vote par correspondance justifie le fait que Donald Trump dise, je le cite, « 2020 sera l'élection la plus erronée et la plus frauduleuse de l'histoire. Le résultat de l'élection du 3 novembre pourrait ne jamais être déterminé avec précision. » Et ça, c'est écrit en gras, parce que c'est un tweet de Donald Trump. C'est si compliqué que ça d'organiser une élection aux États-Unis maintenant ?
Alors, les élections, déjà, ce qu'il faut bien garder en mémoire, c'est que ça n'est pas organisé au niveau national. Il n'y a pas une commission électorale qui organise tout d'en haut. Ça, c'est très français. Aux États-Unis, il y a 50 États, et dans les 50 États, il y a 50 organisations différentes. Donc, chaque État, en fait, peut varier à la marge. Cette affaire du vote par correspondance, ça concerne différents États de différentes façons. C'est-à-dire que ça change également dans le temps. Il y a 5 États qui le font tout le temps, pour toutes les élections. Ça se passe très bien. Toutes les études scientifiques là-dessus, mais bon, Trump ne croit pas à la science, donc forcément, il ne va pas croire. Quand une étude scientifique lui dit « il n'y a pas de fraude » ou « c'est infinitésimal », lui, il dit « mais si, il y a de la fraude » parce qu'une étude scientifique, c'est les élites, donc forcément, c'est faux. Donc, dans sa démarche populiste, ça n'entre pas en ligne de compte. En réalité, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça à organiser, puisque 5 États, dont l'Utah, conservateurs, très conservateurs, le font tout le temps. Là, ce qu'on a vu, on a commencé à voter hier aux États-Unis, dans certains États, le vote anticipé, ça se passe plutôt bien, en tout cas. Il y a un peu des files d'attente parce qu'il y a des gens qui veulent voter tout de suite. Mais au niveau sanitaire...
Ça, c'est vrai que c'est une autre bizarrerie, c'est que l'élection est le 3 novembre, mais on peut déjà commencer dans certains États, avant même, d'ailleurs, les débats Trump-Biden.
Mais on en arrive à ce qu'on disait tout à l'heure. Les évangéliques sont vent debout pour avoir des juges à la Cour suprême, etc. Mais les évangéliques, on sait déjà qu'ils vont voter pour Trump. Les gens qui sont totalement opposés à des restrictions sur l'avortement, par exemple, on sait déjà qu'ils vont voter pour Biden. Donc, ceux à qui on va s'adresser, c'est en fait une toute petite frange de l'électorat. C'est ceux qui...
Celles qui hésitent ?
Ben ceux qui, au bout de 4 ans de Trump, se disent encore « je ne sais pas ». Ces indécis qui sont sous-informés, ça c'est extrêmement important, ce n'est pas des junkies de l'information qui sont toujours sur Twitter à regarder qui a dit quoi. Les partisans démocrates et républicains sont sur-informés. Ceux qui vont faire l'élection, ceux qui n'ont pas encore fait leur choix, sont nettement sous-informés. Et donc c'est vers eux, dans certains États, pas partout, que toute l'attention des deux camps va se porter.
Donc, ça fait mouche quand Donald Trump dit, parce que vous dites, il ne s'adresse pas aux plus informés, il s'adresse à des gens qui hésitent, mal informés. De mon côté, vous avez le loi et l'ordre, et de l'autre, le chaos. Ça, on comprend mieux ce tweet quand on vous écoute, quoi.
À la différence près que les indécis, et notamment les indépendants, ceux qui les fait voter en premier, c'est les questions économiques.
Ah.
Et là, la question économique... Jusqu'à...
Alors là, j'ai un autre sondage sous la main. À qui faites-vous le plus confiance pour relancer l'économie ? Donald Trump, 50%, Joe Biden, 45%.
C'est le seul sujet sur lequel Trump est devant Biden, notamment chez les indépendants, mais globalement chez les Américains, c'est...
Malgré la récession qui s'est creusée à la faveur de la crise sanitaire.
Parce qu'on ne parle pas du présent, on parle de la possibilité à venir de redresser l'économie. Il voit généralement les républicains, et ici il se trouve que c'est Trump, comme le plus à même qu'un démocrate, et ici Biden.
Le pro-business.
Ben oui, plus à même de rétablir une économie prospère.
Sylvie Kaufmann, juste pour revenir quand même sur ces élections, on parle des États-Unis d'Amérique quand même. C'est aussi simple que ça, de Donald Trump, le soir du 3 novembre, si le résultat est serré, il dit « moi, ça m'est égal, je ne pars pas ». Je ne pars pas et vous ne me délogerez pas de la Maison-Blanche, je contesterai le résultat.
Non, c'est pas simple, mais rien n'est simple
parce
dans
qu'on a
cette élection.
Que c'est ce qui s'apprête à faire.
Oui, c'est possible.
Je cite votre édito. Personne ne sait si le 4 novembre les États-Unis auront un président élu, ni même le 4 décembre.
C'est possible, en effet, et même peut-être le 4 janvier.
Hubert Védrine a dit la même chose que vous.
Ah
il
bon,
dit on va avoir, on va avoir pendant des semaines, ce qui est très embêtant, une Amérique sans qu'on sache qui en sera le président.
Non, c'est, vous voyez, en 2000, j'étais correspondante aux États-Unis et j'ai couvert l'élection de 2000. Et c'est vrai que déjà, on avait l'impression de vivre une situation politique surréaliste, parce que pendant un mois, en effet, on avait ce petit... Je dis l'État de Floride, c'est même pas l'État, qui n'est pas un petit État, qui est un État très important, mais c'était trois comtés de Floride où le résultat était contesté. Et donc, on comptait, on recomptait, tout le monde s'en mêlait, l'État de Floride, la Cour suprême de Floride, il y avait des machines à voter qui ne marchaient pas, il y avait des bulletins de vote qui avaient des trous, qui... Enfin, on passait des heures à analyser tout ça. Et malgré tout, au bout d'un mois, bon, je veux dire, le pays, pendant ce temps, a parfaitement continué à vivre. Et au bout d'un mois, la Cour suprême, comme on l'a dit tout à l'heure, a tranché. Et à ce moment-là, en faveur de George Bush, elle a dit on arrête les décomptes. George Bush est élu. Les grands électeurs de Floride vont à George Bush. Et Al Gore s'est incliné le lendemain, sans aucun. Il n'y a eu aucun. Problème, si vous voulez. Et là, on sait parfaitement que ça ne peut plus se passer comme ça, parce que c'était il y a 20 ans et que l'Amérique, les États-Unis ont basculé dans un univers de fake news, de vérités alternatives, de foire d'empoigne. Enfin, on voit bien la campagne, comment ça se passe. C'est extrêmement virulent. Et Trump passe son temps à faire de sa campagne, et lui-même passe leur temps à faire de la désinformation sur Joe Biden, mais de manière incroyablement flagrante.
Et c'est vrai que tout est permis, si vous voulez, sujet à hystérisation. J'ai même lu ce matin à la une du New York Times, Donald Trump qui dit qu'au fond, là où il y a le Covid, c'est dans les États démocrates. Il dit, si vous ne prenez pas en compte les États démocrates, on est vraiment à un bas niveau.
Oui, alors ça, c'est effectivement, en plus, c'est factuellement inexact, mais pour revenir sur le vote par correspondance, il va y avoir un problème aussi matériel. C'est-à-dire que c'est le délai de traitement des bulletins qui auront été renvoyés par la poste.
Alors 39% des votes, il y a eu un sondage, hein, 39% des électeurs s'apprêteraient quand même à faire le vote par correspondance, ce qui est beaucoup, non ?
Ce qui est beaucoup plus que d'ordinaire, puisque c'était autour de 20% en 2016. Donc ce sera à peu près le double. Et en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que les bulletins vont être envoyés par la poste. Premièrement, il va y avoir le délai de traitement par la poste. La poste est sous-budgétée, sous-équipée. Elle n'a pas forcément les moyens de traiter un si grand afflux de bulletins. Et deuxièmement...
Donc, il dit vrai quand même, Donald Trump, quand il dit ça va être sujet à problème.
Non, parce que lui, il dit c'est une fraude. Donc, ça voudrait dire qu'on triche. Ça, ce n'est pas de la triche. C'est simplement qu'on a un recours très important au vote par correspondance qui n'a jamais été éprouvé avec ce volume d'électeurs. Et la deuxième chose, c'est que certains États, par leur loi... mettront plus de temps pour dépouiller tous les bulletins par correspondance. Par exemple, la Pennsylvanie, grand État décisif en 2016, vient de décider qu'on compterait les bulletins arrivés même 3 jours après l'élection, s'ils ont été postés avant. Et donc, ça veut dire que forcément, le dépouillement, il va s'étendre. Et donc, ce qui veut dire que, oui, il va y avoir des délais qui n'auront rien à voir avec de la tricherie, mais qui peuvent créer une zone d'incertitude dont on voit bien que Donald Trump veut l'exploiter politiquement.
D'autant que c'est les démocrates qui vont voter, surtout par correspondance. Ah, oui. Donc, peut-être que le 3
novembre, au matin, on ne saura absolument pas qui est président.
Peut-être que Trump sera en tête, parce que ceux qui se seront le plus déplacés seront les républicains.
Et ensuite, ça va s'inverser.
Donc, au début, le vote physique, ça sera Trump en tête parce que les républicains se déplacent. Les démocrates votant davantage par correspondance. Petit à petit,
hypothèse forte.
Au bout de quelques jours, on va dire finalement, on a recompté et c'est Biden en tête.
Et c'est ce qu'on a déjà vu, qu'on voit en fait généralement en Californie, parce qu'en Californie, on sait que le délai de décompte des voix est plus lent qu'ailleurs. Et donc pour les élections à la Chambre en Californie, c'est toujours très très lent à se décanter et on voit toujours cette espèce de glissement qu'on appelle le blue shift, le glissement vers la gauche, qui se produit plusieurs jours après l'élection.
Et vous avez raison, juste pour terminer là-dessus, ça pose vraiment question que le fait que les États-Unis, cette grande démocratie, ne soit pas capable d'organiser techniquement une élection comme ça. Alors c'est vrai, en temps de Covid, ce qui complique beaucoup les choses, mais ça pose vraiment une vraie question.
Et indépendamment, ce dont vous parliez, ces machines à voter qui sont absolument pas fiables. C'est pas des questions de fraude, c'est une question vraiment de technique. Ouais. En Géorgie, pour la primaire au printemps, il y en avait qui avaient été livrés le matin même. Il n'y avait pas le support technique.
Curieux, ce pays des GAFA, la pointe de la technologie, est pas capable d'organiser techniquement une vote entre deux personnalités.
Qui puisse être incontestable.
Voilà. Alors, dans cette confrontation brutale entre deux hommes, Donald Trump et Joe Biden, le rôle des épouses compte. Et la pression repose aussi donc sur Jill Biden et Melania Trump, sollicitées notamment lors des conventions des deux grands partis. Deux femmes hostiles radicalement opposées, l'une plutôt discrète, l'autre très impliquée dans la campagne, toutes deux chargées d'élargir l'audience de leur mari candidat. Sujet de Magali Lacroze et Benoît Thébault.
Une entrée comme au cinéma. Mélania Trump, ce soir-là, seule en scène à la Maison-Blanche, dit tout le bien qu'elle pense de son mari président au deuxième soir de la Convention des Républicains.
Je suis ici parce que nous avons besoin que mon mari soit président et commandant en chef pour les quatre prochaines années.
À la tribune, elle a cet accent parfois moqué, mais aussi ce ton plein d'empathie et un discours politique qui détonne sur la crise sanitaire que Donald Trump a tendance à minimiser.
Je tiens à reconnaître le fait que depuis mars, nos vies ont considérablement changé. L'ennemi invisible qu'est le Covid-19 a balayé notre magnifique pays et nous a tous touchés.
Melania Trump parle très peu en public. La dernière fois, c'était il y a 4 ans. Alors, chacune de ses apparitions, chacune de ses tenues, pas très discrètes, sont scrutées, analysées. Comme ce jour-là, le New York Times verra la première dame en tenue de combat. Mais pour quel combat, se demande le journal. Il y a eu cette veste aussi 2 ans plus tôt sur laquelle on pouvait lire « Je m'en fous » lors d'une visite très politique à la frontière mexicaine à contre-courant des idées migratoires du président.
Je suis ici pour vous soutenir et pour vous aider comme je peux, pour les enfants et les familles d'ici.
L'énigmatique première dame et son éternel sourire qui soudain se glace au passage d'Ivanka, la fille chérie du président. La première dame intrigue l'Amérique. Alors, quand son ex-conseillère et amie sort un livre confidence sur Melania, il est en tête des ventes. On y découvre une femme prête à tout pour garder sa place, comme ce jour de l'investiture du président Trump.
Ce jour-là, pour la photo, on a fait en sorte avec Melania que Barron, son fils, soit à côté d'elle et de Donald Trump, et qu'Ivanka soit un peu plus loin.
Chez les Biden, c'est Jill qui prend toute la place, même celle du candidat.
Je suis le mari de Jill Biden.
Elle décide de tout, même du lieu de son intervention pour la Convention démocrate dans son ancienne école. Elle y dresse un portrait amoureux de son mari qui lui seul pourrait rassembler une Amérique divisée.
Il fera pour vos familles ce qu'il a fait avec la nôtre, nous rassembler tous ensemble.
Une femme très active et très engagée dans la campagne de l'ancien vice-président.
Nous devons même aller voir les républicains et leur dire « Ok, vous êtes républicain, mais vous ne pouvez pas me dire que vos enfants sont fiers du président avec tout ce qu'il dit. Et en tant que parent, comment pouvez-vous être fier de ce président ?»
Jill Biden, combattante de terrain et par les poings. Quand un militant anti-Biden s'infiltre sur scène, c'est elle qui fait la sécurité de son mari.
Merci. Merci, mais c'est pas à toi de te lever, Jill.
Docteur B, comme l'appellent ses étudiants, est professeur d'anglais, passionné par son métier et par ses cours pour les enfants réfugiés, qu'elle n'abandonnerait sous aucun prétexte.
Si on arrive à la Maison-Blanche, évidemment que je vais continuer à enseigner. C'est important. J'adore pouvoir conduire mes élèves sur le chemin du succès.
Alors, qui pour incarner le rôle chaque fois différemment joué par les premières dames des États-Unis ? Jill ou Melania ? Melania ou Jill ? L'autre choix que devront faire les Américains le 4 novembre prochain.
Alors, question téléspectateur Marie-Cécile Nab, les épouses des candidats jouent-elles un rôle important dans la campagne électorale ?
Oui, dans le sens où elles nourrissent ou pas le storytelling mis en place par leur mari. Et dans le cas de Jill Biden, c'est intéressant parce que Biden, il nourrit un récit de l'empathie, de la bienveillance, de la solidarité, de l'union dans le pays. Et puis Jill Biden...
Parce qu'il a une vie très pleine de souffrance. Hein. Il est veuf, voilà. Il a perdu ses enfants.
Voilà. Et aussi par contraste avec Trump. Et Jill Biden, elle coche un peu toutes les cases de ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un avec qui il s'est marié après avoir perdu son épouse et sa petite-fille dans un accident de voiture. Elle est enseignante. Elle est enseignante, on l'a vu aussi, auprès d'enfants de réfugiés, mais aussi auprès d'enfants handicapés, qui ont des troubles de l'apprentissage. Donc, dans l'image de bienveillance, de sollicitude, d'empathie, elle correspond bien au récit que veut imposer son mari. Et puis, ça correspond aussi à certains stéréotypes genrés, quand même, il faut le dire, hein, de la première dame. C'est-à-dire, oui, elle travaille, oui, elle s'implique, mais quand même dans des causes qui sont, de manière un peu stéréotypée, vues comme féminines.
Et alors, Melania Trump, est-ce qu'elle est perçue comme une première dame? Et comment le peuple américain perçoit une femme dont le mari est connu pour avoir fait des phrases, qui est continué d'ailleurs, ou enfin, continué?
Oui, il a une vingtaine de plaintes et de, voilà, pour viol.
Donc,
hein,
oui, donc lui, comment on la voit comme une... comme une femme qui devrait un petit peu dire bah, « Écoute, c'est pas possible, tu devrais pas accepter ça de la part de ton mari ou... ?»
Je crois qu'elle est plutôt vue comme une victime. Aux États-Unis, comme quelqu'un qui est dans un mariage qui ne semble pas nécessairement la satisfaire complètement. On voit que parfois, elle refuse de prendre sa main quand il essaie de la prendre dans des voyages officiels. Elle est un peu vue comme quelqu'un subissant la fonction. Et c'est une femme qui est très... très effacée, qui n'est pas vraiment engagée ou de manière très, très prudente.
Ce n'est pas la première dame active aux côtés de son mari?
Non, et puis le contraste avec, évidemment, Michelle Obama est intéressant à observer. C'est vraiment tout le contraire d'une femme moderne, entre guillemets.
Donc Donald Trump prend toute la place à la Maison-Blanche. Ce n'est vraiment pas un couple, parce qu'on parle parfois de couple, là, pour le coup. C'est...
Moi, je la vois un peu comme un faire-valoir aussi. C'est-à-dire, elle est beaucoup plus jeune que lui. C'est une ancienne mannequin, c'est un peu un faire-valoir dans la vision qu'il a des femmes aussi.
Et Laurie Kenton, alors, c'est une question qui me vient, mais quand même, elle est étrangère, elle est slovène. Elle est née dans un pays qui s'appelait à l'époque la Yougoslavie, donc un pays communiste. Pour un parti républicain qui prône le patriotisme et les valeurs conservatrices, avoir à la Maison-Blanche une femme, je caricature, hein, mais qui est étrangère et anciennement communiste, ça fait débat ou pas du tout?
Ah non, au contraire, ça a été mis en avant comme le rêve américain qui a été bien mis en scène pendant la convention. Elle était en gros l'une des incarnations du rêve américain, réfugiée du communisme. Elle n'était pas communiste, elle était
née dans un pays.
Née, mais à son corps défendant dans un pays communiste. Et c'est aux États-Unis qu'elle a pu, en gros, s'émanciper de toutes ces horreurs. Et donc, c'est une incarnation du rêve américain de ce point de vue-là. Donc, une célébration de la grandeur des États-Unis. Et donc, Make America Great Again, restaurer la grandeur de l'Amérique, c'est aussi célébrer cette grandeur de l'Amérique. Donc elle est bien dans l'histoire. Là.
Est-ce qu'on peut parler d'un vote féminin d'ailleurs? Et est-ce qu'il y a une influence de ces premières dames sur le vote des femmes? Corentin Célin,
alors,
c'est comment elles votent les femmes?
Deux questions différentes. Bon, l'influence des First Ladies sur le vote féminin, je ne crois pas qu'il y ait d'études sur cette corrélation-là. Par contre, sur le rôle du vote féminin, c'est vraiment une problématique importante dans le cas de Trump. En 2016, il faut se rappeler qu'un mois avant l'élection, était sorti un document absolument accablant pour lui, où il avait été enregistré à son insu en train de tenir des propos injurieux, désobligeants, abominables sur les femmes. Et à ce moment-là, tout le monde s'était dit « bon, c'est pas possible, il va perdre de très loin le vote des femmes, qui déjà, traditionnellement, votent plutôt démocrate depuis des décennies ». Or, le jour de l'élection, surprise, si effectivement Trump a perdu le vote des femmes chez les femmes blanches, il l'aurait emporté. Et ça a été une énorme surprise qui a été confirmée ensuite par la consolidation des sondages sortis des urnes. Et un des grands enjeux aujourd'hui en 2020, c'est de savoir si, après 4 ans où on ne peut pas dire que Donald Trump ait cherché à s'amender auprès des femmes par son comportement, eh bien, est-ce que les femmes blanches, elles vont continuer à voter pour Trump? Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, ça nous ramène à notre sujet de départ, c'est que de manière assez surprenante, si on regarde les derniers sondages, les femmes blanches sont particulièrement, cet électorat-là, est particulièrement intéressé par la Cour suprême. Et donc, peut-être que Donald Trump pourrait tenter, en nommant par exemple une femme, et en nommant une femme peut-être avec des caractéristiques issues des minorités, on peut penser à Naomi Rao par exemple, s'il nommait une femme avec des caractéristiques inhabituelles pour lui à la Cour suprême, il peut de nouveau renouveler ce qu'il a fait en 2016, c'est-à-dire avoir un vote féminin chez les femmes blanches plus important.
Mais il faut croiser avec le niveau de diplôme, c'est très important. Et les femmes blanches diplômées du supérieur se sont beaucoup éloignées de Trump. On l'a vu au moment des élections de mi-mandat de novembre 2018, où là, il a perdu... vraiment beaucoup de poids auprès de ces femmes, restent celles qui ne sont pas diplômées du supérieur, des régions rurales, etc.
On est surpris, Sylvie Kaufmann, comme cet électorat américain est saucissonné. Et d'ailleurs, comme chaque candidat a une approche bloc par bloc, on a vu dans le reportage, tiens, alors les Latinos, là, il était, Donald Trump était en Floride, alors les Latinos, et pour convaincre l'électorat latino de voter pour lui, sans honte, sans filtre, il a dit « I love Latinos ». On a l'impression que c'était son argument de campagne.
Oui, il aime tout le monde. Oui, absolument, et c'est pour ça que Joe Biden a choisi comme candidate à la vice-présidence une femme, et non seulement une femme, mais qui aussi représente les minorités ethniques, puisqu'elle est, son père est jamaïcain et sa mère indienne.
Donc on s'adresse plus aux Américains, à les femmes blanches du niveau supérieur,
c'est-à-dire
les Latinos de Floride.
C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir... Alors, le fait d'avoir des femmes candidates, c'est une revendication ancienne. Hein. On a eu Hillary Clinton qui était la première femme candidate il y a 4 ans. Oui, 4 ans. C'est aussi, c'était une exigence pratiquement évidente que la candidate à la coéquipière de Joe Biden soit une femme. Et à cela s'ajoutait aussi une exigence assez évidente qui était qu'elle soit issue des minorités ethniques. Parce que le vote, mais vous avez raison, c'est les politiques identitaires. Hein, aux États-Unis, ça marche.
Oui, on avait dit que ça n'avait pas porté chance à Hillary Clinton. Qui,
non, c'est ce que décrivait Corentin tout à l'heure.
L'électorat,
en effet, beaucoup de femmes n'ont pas voté pour Hillary Clinton, c'est vrai. Mais je pense que Kamala Harris est un bon choix, hein, ce qui devrait vraiment beaucoup aider, probablement plus que, même si Jill Biden est populaire chez les démocrates, je pense que le choix de Kamala Harris est probablement va peser davantage sur l'électorat.
L'autre surprise dans cette campagne qui n'en manque pas, c'est la nomination de Donald Trump pour l'élection du prix Nobel de la paix. Ben oui, l'initiative vient d'un élu norvégien et elle est censée récompenser le président américain pour sa médiation entre Israël et les Émirats arabes unis. Pour Donald Trump, c'est en effet un coup d'éclat qui est censé améliorer un bilan plutôt mitigé à l'international. Vous voyez ce sujet de Pierre Barbin et Ilana Azinko.
Et s'il devenait le prochain prix Nobel de la paix ? Musique présidentielle à l'appui, Donald Trump conclut un accord historique et promet déjà la paix au Proche-Orient.
Aujourd'hui, le monde voit qu'ils choisissent la coopération plutôt que le conflit, l'amitié plutôt que l'adversité, la prospérité plutôt que la pauvreté et l'espoir plutôt que le désespoir. Ils choisissent un avenir dans lequel Arabes et Israéliens, musulmans, juifs et chrétiens peuvent vivre ensemble, prier ensemble et rêver ensemble dans l'harmonie, la communauté et la paix.
Crise du Covid oblige. Aucune poignée de main face aux médias, mais un large sourire aux lèvres et une signature dans les jardins de la Maison-Blanche. Ce 15 septembre marque le début de nouvelles relations entre Bahreïn, les Émirats arabes unis et Israël.
C'est un jour emblématique. Depuis des dizaines d'années, le peuple juif prie pour la paix. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes emplis d'une profonde gratitude.
Une signature à l'aube d'un nouveau Moyen-Orient, selon Donald Trump. Désormais, 4 pays arabes reconnaissent officiellement l'État d'Israël. Après l'Égypte en 1979 et la Jordanie 15 ans plus tard, un nouveau cap est franchi avec ces accords Abraham, engagés par Bahreïn et les Émirats arabes unis. Avec Israël, des liaisons aériennes seront créées. Les échanges économiques vont s'intensifier. Une entente commerciale dans une région minée par les désaccords.
Une solution juste, globale et durable à 2 États pour le conflit israélo-palestinien sera le fondement, la base de cette paix.
Mais cet espoir est encore utopique. Dès l'annonce de l'accord, des roquettes sont tirées en direction d'Israël, depuis la bande de Gaza. Le lendemain, les rues palestiniennes deviennent des lieux de protestation. Un homme est ciblé, Donald Trump, et sa politique en faveur de l'État hébreu.
Cette normalisation, elle a été faite sur le dos des sacrifices du peuple palestinien et des luttes du peuple arabe. À cet égard, on voit une occupation sioniste et la présence du leadership américain.
Dans un communiqué, Mahmoud Abbas fait lui aussi part de sa colère après cette signature à Washington.
Les tentatives pour contourner le peuple palestinien auront de graves répercussions, dont les États-Unis et l'occupation israélienne devront porter la responsabilité.
Qu'importe les menaces, cet accord est une victoire pour Donald Trump à quelques semaines de l'élection présidentielle. Le président américain veut tirer profit de sa politique internationale. Début septembre, il avait déjà convaincu un pays de s'engager en faveur d'Israël.
La Serbie s'est engagée à ouvrir un bureau commercial à Jérusalem dès ce mois-ci et à déménager son ambassade d'ici juillet. C'est fantastique. C'est une très bonne chose et une très grande décision. On apprécie beaucoup.
Une décision similaire à celle des États-Unis prise 2 ans plus tôt. Mais Donald Trump ne compte pas s'arrêter là et va donc continuer à négocier avec les pays arabes pour trouver un accord de paix avec Israël.
Nous aurons, je pense, 7, 8 ou 9 pays qui vont nous rejoindre, y compris les plus grands.
Parmi eux, l'Arabie Saoudite, la puissance du Golfe Persique. Mais au sein même du royaume, les avis divergent. Les négociations s'annoncent donc difficiles, mais Donald Trump espère une issue favorable d'ici les élections de novembre.
Corentin Sénin, quand même, coup de chapeau. Donald Trump est arrivé à obtenir une normalisation des relations entre Israël et des pays très hostiles, Bahreïn, les Émirats arabes unis et peut-être même l'Arabie saoudite.
Alors, incontestablement, c'est un vrai succès diplomatique pour lui. Et tout aussi incontestablement, ça vient après 4 ans où, en politique étrangère, il y a eu beaucoup de déconvenues. On pense en particulier à la Corée du Nord, où malgré les initiatives à grand spectacle, ça n'a rien donné. Cependant, alors, il faut être logique dans les deux sens. Quand Donald Trump peinait en politique étrangère, on disait bon, ça ne compte pas vraiment pour les électeurs, ce n'est pas un motif prioritaire de vote pour les électeurs américains. Eh bien, on est un peu tenté de dire la même chose. Oui, c'est une incontestable réussite, mais est-ce que ça pèsera ?
L'électeur de Pennsylvanie, voilà. Ça lui est bien égal.
Voilà. Et on peut d'ailleurs rappeler qu'il y a 2 présidents qui avaient fait énormément pour le Proche-Orient. C'était Jimmy Carter, on s'en souvient. Mais aussi, on l'a peut-être... George Bush Senior, qui avait lancé en 92 le processus qui avait amené aux accords d'Oslo. Et finalement, les deux avaient été battus. Donc, on voit bien que la politique étrangère, ça reste une terre inconnue pour beaucoup d'électeurs américains.
Question téléspectateur Marie-Cécile Nave. À part Israël, bien sûr, quel pays souhaite un second mandat de Trump? Vous avez vu, j'imagine, cette enquête du Pew Research sur la popularité des États-Unis dans le monde, qui est en chute libre. Il n'y a plus que 31% des Français qui ont une bonne image des États-Unis. C'était 80% hein, du temps d'Obama. 26% des Allemands, 41% des Anglais, 33% des Australiens, à peine 35% des Canadiens aussi. Partout dans le monde, l'image des États-Unis s'est affaissée, on a l'impression.
La Russie
souhaiterait.
Bien sûr, la Russie, et on n'en a pas parlé parce que c'est encore un sujet vaste.
Et pourquoi alors ?
Mais il y a des... Le FBI est très inquiet de nouvelles interférences dans l'élection de 2020.
En faveur de Trump ?
En faveur de Trump, oui.
Et pourquoi les Russes auraient-ils intérêt à un second mandat de Donald Trump ?
Parce que il a été relativement indulgent avec eux sur un certain nombre de sujets, et parce qu'ils craignent que Biden revienne à une politique un peu à la Obama, qui avait été tendue. Les relations avaient été très tendues entre le président Poutine et le président Obama, l'affaire de la Crimée, l'Ukraine, etc. Alors que Trump a été plutôt clément.
Et qu'un Joe Biden peut-être retisse les liens avec les alliés traditionnels de l'Amérique, à savoir nous.
Oui, et puis sans doute que dans l'administration Biden, et peut-être même au département d'État, il y aura des anciens de l'administration Obama, parce que c'est quand même des réseaux très, très puissants, très anciens. Ça ne va pas être une nouvelle administration ex nihilo. Donc il y a peut-être cette crainte du côté de Poutine.
Laurie Kenton, est-ce qu'on peut penser que Joe Biden retisserait des teintes il peut réparer, je veux dire, la cassure qu'il y a eu avec le mandat de Trump, Biden, et retisser un je t'aime qu'il y avait du temps d'Obama entre l'Europe, je ne sais pas si on pouvait parler d'un je t'aime, mais de bonnes relations. Voilà,
il suffit d'en revenir à la présidence de Bush. Bush n'était pas, maintenant il passe pour un vieux sage républicain, mais il ne faut pas oublier qu'au début des années 2000, l'image des États-Unis était absolument désastreuse dans le monde entier, et le lendemain de l'élection d'Obama, pouf, la popularité d'Obama et des États-Unis remontait en flèche. Il y a eu un plateau pendant tous les deux mandats d'Obama, et ensuite l'élection de Trump, crac, ça redescend en flèche. L'opinion européenne mais internationale des États-Unis est très très liée au président, à l'identité du président, et ça va très très vite. C'est-à-dire que si Biden est élu, disons sans trop d'encombre, en novembre, vous faites la même étude et vous voyez que l'opinion mondiale, elle remonte en flèche pour les États-Unis. Donc ça, j'y accorde pas beaucoup de valeur parce que en termes de consommation, de soft power, d'influence des États-Unis au niveau culturel, bon, c'est pas le président qui fait que vous regardez, pas une série, que vous consommez américain, ce genre de choses. Donc de ce point de vue-là, au niveau des rentrées fiscales...
Il y a moins d'étudiants qui rêvent d'aller faire leurs études aux États-Unis, enfin à part les très grandes universités prestigieuses. On est moins tenté par l'aventure américaine. L'American Dream en a peut-être pris un petit coup.
Non, c'est une question d'obtention des visas. C'est plus compliqué d'obtenir des visas. Donc là, c'est plutôt... en plus, là, il y a le Covid, donc la question ne se pose même plus. Mais c'est plutôt cette question-là. Hein. L'attractivité des universités américaines, dépend notamment de l'obtention des visas.
Sylvie Kaufmann, tout à l'heure, Corentin Sélin disait, vous savez, l'électeur de Pennsylvanie, ça lui est bien égal de savoir qu'il y a une normalisation des relations entre Bahreïn et Israël. De la même façon, est-ce que quand même les Américains, ils voient ça, que leur image dans le monde avec Donald Trump s'est affaissée, que les Américains sont moins populaires dans le monde? Ça leur est complètement égal ou,
C'est une très bonne question, mais il faut savoir comment s'informent les électeurs américains. C'est-à-dire que ceux qui s'informent dans les réseaux, auprès des réseaux d'information alimentés par la machine Trump, ils pensent que l'Amérique est toujours la plus forte, la plus, qui a le plus grand succès sur la scène mondiale. Et alors, il y a une autre donnée qui est importante en politique étrangère, c'est la Chine. C'est vraiment une donnée majeure, c'est-à-dire que toute la politique étrangère de Trump est maintenant focalisée sur l'affrontement avec la Chine.
Biden a abandonné vos emplois à la Chine, voilà. Tweet de Donald Trump.
Et ça marche très bien. Je veux dire, tout n'est pas négatif là-dedans. Trump, il faut le reconnaître, et les Européens en sont conscients, a mis le doigt sur des vrais déséquilibres dans les échanges commerciaux avec la Chine, dans l'absence d'ouverture des marchés de la Chine, dans la politique expansionniste de la Chine. Il a dit très haut ce qu'on commençait à voir difficilement.
C'est un constat partagé maintenant.
Voilà, on avait été d'une grande naïveté et on commence à s'en rendre compte avec la Chine. Et donc, lui, il exploite ce thème avec énormément de force, beaucoup de démagogie bien sûr, mais c'est vrai que quand vous parlez des emplois des gens, ça leur parle, ils comprennent. Donc là, je crois que si on parle de l'influence de la politique étrangère sur l'électorat, en effet, cet accord qui a été signé à la Maison-Blanche, ça fait certainement plaisir à l'ego de Trump parce qu'il a vu...
L'électorat juif peut être sensible néanmoins.
L'électorat juif, il est déjà largement acquis aux démocrates quand même. Donc je pense que...
Et il est concentré
c'est l'électorat évangélique qui est plus sensible, mais qui lui est acquis aussi. Voilà, donc je ne pense pas que ça pèsera. Mais en revanche, s'il arrive à convaincre... dans les swing states, notamment dans les États qui vont faire la différence, les électeurs que Biden, lui, sera plus doux, plus soft, plus indulgent avec la Chine. Là, ça peut faire mal.
Oui, Quentin, c'est là.
En fait, pour aller dans le même sens de tout ce qui a été dit, je crois qu'il faut quand même rappeler que, justement, Trump, il se fiche de l'opinion que les autres peuvent avoir de l'Amérique. Lui, ce qui lui importe, c'est que ses électeurs croit à la grandeur de l'Amérique et surtout que lui se bat d'abord pour eux et peu importe ce que peuvent penser les étrangers. Même, j'allais dire, cette impopularité du sondage Pew, ça peut le servir. Il ne faut jamais oublier une phrase qui est vraiment pour lui, je crois, un mantra, c'est je n'ai pas été élu pour être le président de Paris quand il a quitté les accords de Paris, je suis le président de Pittsburgh. Donc il n'est pas là pour faire du multilatéral, pour être aimé par les autres, il est là pour être aimé des Américains.
L'Américain de Pittsburgh. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Qui était Ruth Ginsburg? Alors, on va pas faire une thèse, mais Nico, vous disiez tout à l'heure, vous avez cette image, c'était la Simone Veil des États-Unis.
Oui, j'ai envie de l'appeler comme ça. C'est une éminente juriste qui est reconnue comme étant une très très grande technicienne du droit sur tout l'échiquier politique et qui a été une des premières femmes admises dans les grandes écoles de droit dans les années 60. Même parfois, on lui a fait comprendre à Harvard ou ailleurs qu'elle prenait la place d'un homme. Elle a raconté ça.
D'un homme compétent,
oui. Exactement.
Qui êtes-vous pour prendre la place d'un homme compétent?
Voilà, mais elle a fondé dans les revues juridiques, dans les universités, elle a fondé une section sur la lutte contre les discriminations sexuelles, etc. Et donc toute sa vie, toute sa carrière, elle s'est battue pour l'égalité des droits entre hommes et femmes, mais aussi sur l'égalité raciale, sur l'égalité des LGBT, etc.
Et donc à la Cour suprême, elle a eu l'occasion de prendre des décisions en faveur de ces combats. Je rappelle, la Cour suprême, c'est une centaine de décisions par an, hein, sur des thèmes de société, comme on le disait tout à l'heure. Le port d'armes, les mariages gays. Ouais,
et puis c'est un rôle modèle parce que c'est la deuxième femme nommée à la Cour suprême aux États-Unis. Il n'y a eu que 4 femmes dans l'histoire nommées à la Cour suprême contre plus de 100 hommes.
Alors justement, cette question, quel est le rôle de la Cour suprême américaine, Sylvie Kaufmann?
Par exemple, pour continuer à répondre à votre question, ouais. En continuant sur la question précédente, il y a une décision de la Cour suprême dans laquelle Ruth Bader Ginsburg avait joué un rôle très important, c'était la décision sur l'Institut militaire de Virginie, qui n'admettait pas les femmes. C'est une sorte de Saint-Cyr local, si vous voulez. Et donc, les femmes n'y étaient pas admises. Et donc, elle s'est battue pour que les femmes puissent être admises dans cette institution militaire. Voilà, donc le rôle de la Cour suprême, c'est des choses comme ça aussi, qui font évidemment tache d'huile. Parce que quand un institut militaire d'un État doit admettre les femmes, les autres dans les autres États vont le faire.
Si on vous a bien compris, le rôle de la Cour suprême, ce sera aussi peut-être en décembre prochain de trancher qui, de Donald Trump ou de Joe Biden, sera le futur président des États-Unis.
Ça peut l'être, suivant la configuration, suivant ce qui se passe. À nouveau, on ne sait pas vraiment comment les choses vont se passer.
Ça peut se terminer à la Cour suprême.
Absolument, oui, tout à fait. Oui.
Ça a déjà été le cas.
En 2000,
Al Gore Bush. Ça a déjà été le cas, oui. Ça serait la meilleure solution, d'ailleurs.
Quelle a été la réaction de Donald Trump au décès de Ruth Ginsburg?
Alors, comme on l'a vu, une réaction extrêmement pondérée et tout à fait digne, hein, dans un premier temps, au retour à la Maison-Blanche. Ensuite, un communiqué très pondéré, plein d'hommages. Disons que ça a duré 24 heures et que là, aujourd'hui, on semble revenu au business as usual, puisque là, dans un tweet, il dit « Bon, maintenant, on va nommer un remplaçant vite, sans délai. »
Sans délai.
Donc,
et qui ne sera pas de la même couleur politique. Hein,
voilà. En appelant les élus républicains. Bon, cependant, il faut quand même insister. Là, pour le coup, le président Trump a fait le job. Il a aussi fait baisser les drapeaux en signe de deuil. Donc, vraiment, là, il a rempli parfaitement sa fonction de président.
Si le président Trump s'efforce de nommer un nouveau juge le plus vite possible, cela ne prouve-t-il pas qu'il pense être battu à l'élection? Laurie Kenton.
Il est derrière dans les sondages pour l'instant. C'est extrêmement stable jusqu'ici. Rien ne dit que ça va le rester. Donc pour l'instant, il fait un petit peu la course derrière. Il n'est pas dans une posture qui est très flatteuse. Donc, il ne doit pas être totalement rassuré. Même si ses conseillers pensent que ça va s'inverser, que ça va être serré, etc. Il a aussi besoin de s'assurer, justement, d'une porte de sortie juridique en cas de contestation. Donc, pour lui, c'est vraiment dans son intérêt. Et en plus, ça lui permettrait de dire « Regardez, je travaille pour vous parce que vous m'avez élu pour nommer des juges à la Cour suprême notamment, je fais le job. »
Marie-Cécile Nave, lui qui déteste tant les losers, s'imagine-t-il loser, un loser à cette élection?
S'il perd, c'est que l'élection a été truquée. C'est ce qu'il dira. Il avait déjà dit en 2016, si je gagne, c'est que les gens ont voté pour moi, si je perds, c'est que l'élection a été truquée par les démocrates.
Petite précision, ce que disait Laurie Kenton, il est en arrière dans les sondages, il est en retard sur Joe Biden, mais il ne faut pas oublier que Hillary Clinton a perdu en 2016 avec 3 millions de voix d'avance. C'est ça aussi.
Au total, au niveau national.
Au niveau fédéral, voilà.
C'était déjà mais le c'est cas ça aussi, pour complexe. Bush, hein, il avait moins de voix qu'Al Gore.
Tous les présidents républicains depuis...
C'est ça aussi, toute la complexité du système électoral américain qui ne simplifie pas les choses.
Parce que les États ruraux républicains peu peuplés sont surreprésentés, on peut dire, institutionnellement.
Au collège électoral. Voilà.
Vidéos mensongères, insultes, diffamations, tout est donc permis pendant la campagne présidentielle américaine. C'est vrai que Sylvie Kaufmann, j'ai été surpris de voir à plusieurs fois, vous avez l'air de dire qu'aujourd'hui on s'informe par les réseaux sociaux et qu'il n'y a plus les médias traditionnels. Genre le New York Times pour lequel vous écrivez, que ça ne sert plus, ça n'est plus lu, quoi.
Ils sont toujours là, ils ont toujours une audience, mais c'est vrai que maintenant, comme dans beaucoup de pays occidentaux, l'information est très polarisée, c'est-à-dire que nous vivons tous un peu dans nos bulles d'information, et les réseaux sociaux ont beaucoup favorisé ce phénomène, c'est-à-dire qu'on a tendance à nous informer auprès des gens et des sources d'informations qui pensent comme nous et qui nous renforcent dans nos convictions au lieu d'aller chercher le contradictoire.
Il y a Fox News et il y a les chaînes de radio conservatrices dans l'Amérique rurale où les gens écoutent beaucoup la radio en voiture. Ça aussi, c'est des médias très, très polarisés et très influents.
Et ça change la nature de l'élection, la nature de la campagne ?
Alors, sur la violence de la campagne, il faut aussi voir que c'est une conséquence de la dérégulation du financement des campagnes. Il faut toujours rappeler qu'aux États-Unis, cette campagne qu'on voit là, elle est financée par de l'argent privé. Qui peut abonder de manière illimitée, parfois même anonyme, en faveur des campagnes, ce qui amène un véritable déchaînement de publicités souvent extrêmement violentes, qui ne sont pas du tout, comme en France, contrôlées, normées. Donc, ça encourage aussi...
Il y a les montages, hein,
qui ont même été relayés
sur le compte Twitter de Donald Trump.
Oui, d'ailleurs, il faut toujours rappeler que c'est très intéressant, ces montages vidéo, il faut rappeler un fait simple, Joe Biden s'est engagé à ce que sa campagne et ceux qui le soutiennent ne fassent pas de deepfakes, ne fassent pas de montage vidéo de Trump.
Alors deepfake, dites, hein, c'est-à-dire qu'on fait dire à une personnalité, maintenant il y a des techniques,
voilà, c'est un montage
des
vidéo
choses qu'il ne dit pas.
Voilà, c'est un montage vidéo qui fait dire à une personne, comme si elle parlait vraiment, quelque chose qu'elle ne dit pas. Et en fait, Donald Trump, lui, n'a pas pris le même engagement. Donc effectivement, ceux qui le soutiennent n'hésitent pas sur les réseaux sociaux à utiliser des deepfakes à propos de Joe Biden. Mais ça, c'est vraiment une conséquence, il faut vraiment le rappeler, de cet argent fou roi dans la campagne états-unienne.
Mais Laurie Kenton, c'est redoutablement efficace. Vous disiez tout à l'heure que ceux qui ont la clé du scrutin sont des gens qui s'informent peu et donc qui sont très sensibles à ces deepfakes. Quand on fait dire à Joe Biden une chose qu'il n'a pas dite, mais si on le voit, on croit ce qu'on voit, non ?
Ça dépend, ça
faut
marche.
Il faut plus croire ce qu'on voit.
Maintenant, il faut être extrêmement prudent.
Il faut regarder qui le dit, peut-être.
Voilà, et puis alors ça, bon, les indépendants vont aussi savoir un peu que ça vient de Trump, donc c'est sujet à caution. Mais c'est surtout que ça va s'adresser à des gens qui sont essentiellement déjà convaincus. Donc ça va surtout les conforter dans leur point de vue. Des Trumpistes invétérés qui vont voir ça vont se dire « Ah, je le savais très bien ». Mais voilà, les autres, pas forcément. Et puis ça remplit pas le frigo, hein.
L'abstention peut-elle remporter ces élections du 3 novembre, Marie-Cécile Nave ?
Oui, l'abstention peut être forte. Elle était déjà, je crois, de 54% en 2016. Mais dans l'abstention, ce n'est pas uniquement des gens qui ne veulent pas aller voter, c'est aussi beaucoup de gens qui sont empêchés ou dissuadés d'aller voter.
Pourquoi ?
En particulier, on l'a dit déjà sur ce plateau, me semble-t-il, plusieurs fois, mais c'est bien de le répéter, les minorités, notamment les Noirs, dans certains districts, sont dissuadés d'aller voter parce qu'il y a des contraintes qui, dans les États républicains qui leur demandent une carte d'identité avec photo, qui leur les empêchent d'aller voter près de leur domicile, etc., etc., pour favoriser les conservateurs.
Est-ce qu'on a le temps ? En cas de défaite, Trump l'acceptera-t-il ? Et si ce n'est pas le cas, que se passera-t-il ? Une réponse courte.
Il l'a répété à multiples reprises. Il acceptera s'il gagne. Il a déjà mis en place tous les outils de contestation juridique. Donc, ça peut amener du désordre.
On n'a pas fini de revenir sur cette élection américaine. Rendez-vous, ça commence le 3 novembre en tous les cas. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est l'Hebdo. Et lundi, vous retrouverez Caroline Roux. Bonne soirée.